un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
La pièce se passe dans la mémoire et n'est donc pas réaliste. La mémoire se permet beaucoup de licences poétiques. Elle omet certains détails, d'autres sont exagérés, selon la valeur émotionnelle des souvenirs, car la mémoire a son siège essentiellement dans le cœur. L'intérieur de l'appartement est donc plutôt obscur et poétique. Le public entend et voit la première scène dans la salle à manger à travers le quatrième mur transparent de l'immeuble et à travers les rideaux transparents en tulle qui ferment l'arcade de la salle à manger. Ce sont les mots de Tennessee Williams en préambule de sa pièce La Ménagerie de verre dans une mise en scène de Daniel Janto, et vous y jouez le rôle de la mère. Dominique Raymond, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Maman ?
On ne peut pas dire le bénédicité tant que tu n'es pas à table.
J'arrive, maman.
Mon chéri, ne pousse pas avec les doigts. Si tu dois absolument pousser avec quelque chose, prends un bout de pain et marche. Marche. Les animaux ont plusieurs compartiments dans leur estomac qui leur permettent de digérer les aliments sans mastiquer. Mais les êtres humains doivent mâcher leurs aliments. Alors, prends le temps de manger, mon fils, et de vraiment savourer ce qu'il y a dans ton assiette. Un repas bien préparé recèle toutes sortes de saveurs délicates qu'il faut garder en bouche pour les apprécier. Alors, mâche tes aliments et laisse à tes glandes salivaires l'occasion de fonctionner.
Je n'ai pas pu apprécier une bouchée de ce dîner parce que tu passes ton temps à me reprendre sur ma manière de le manger. C'est toi qui fais engloutir mes repas à toute vitesse, en épiant comme un faucon chaque bouchée que j'avale. Ça me soulève le cœur. Ça me coupe l'appétit, toutes ces descriptions de sécrétion animale, de glandes salivaires, de mastication.
Ah, monsieur fait ça, diva. Qui t'a permis de sortir de table?
Je vais fumer une cigarette.
Tu fumes trop.
T'apportes le dessert?
Non, petite sœur. Pour une fois, c'est toi la dame. Et moi qui fais la bonne.
Mais je suis déjà debout.
Rassieds-toi, petite sœur. Je veux que tu restes fraîche et jolie pour tes galants.
Bon, c'est un mélange de désagréable et drôle, apparemment, Dominique Raymond, pour vous, de réécouter cette captation sonore de La Ménagerie de verre.
C'est-à-dire que je crois que cet enregistrement a été fait il y a quelques temps. On a commencé à répéter et à jouer cette pièce il y a 3 ans, et je pense que c'était le début. Je dis pas que maintenant c'est totalement différent, mais enfin, on est quand même passer sur un peu une autre dimension. Enfin, en ce qui me concerne, pour cette première phrase qui doit être dans le non-réalisme absolu, je pense que là, j'y mettais encore trop de réalisme et que là, je pense que on est beaucoup plus dans ce que voulait Daniel au départ, c'est-à-dire être dans le non-réalisme total, dans la neutralité du ton qui fait qu'on plonge très très doucement dans la mémoire comme on rentre dans la mer. Et là, c'est pas encore ça à l'écoute.
C'est pour ça que je lisais ces mots de Tennessee Williams, qui sont d'ailleurs dits avant que la pièce ne commence, et qui disent presque le régime de parole, l'endroit où il faut écouter, l'endroit où il faut tendre l'oreille, qui est celui de la mémoire. Qui engage quoi pour vous sur le plateau?
Alors, c'est réellement, effectivement, une pièce sur la mémoire de Tom, la mémoire de cette vie qu'il a eue avec sa famille, dont il est maintenant sorti. Et donc représenté par ces deux épaisseurs de rideaux qui, peu à peu, vont finir par s'ouvrir, car les scènes passant devant reviennent au temps réel. Ce qui est très beau, c'est que dans cette histoire, Tom nous raconte à nous aujourd'hui un pan de sa vie, et qui est d'ailleurs un pan de la vie de Tennessee Williams, c'est complètement autobiographique, où il vendait des chaussures alors qu'il avait envie de faire autre chose. Cette mère qui prenait tellement de place, et puis l'amour qu'il avait pour sa sœur, qui fait revivre là sous les traits de Laura. Et donc il va être appelé à l'intérieur du souvenir par cette mère, donc dans ce ton absolument neutre, sans aucun affect, rien du tout, et revit pour nous tous ces moments douloureux pour retourner à la fin devant le rideau et dire voilà où il en est aujourd'hui. Donc c'est réellement une pièce sur la mémoire et le souvenir. C'est une des pièces les plus autobiographiques de Tennessee Williams.
Si on commence par cet extrait où la mère appelle ses enfants pour aller à table, c'est d'une part parce que c'est assez relativement au début de la pièce, et c'est aussi parce qu'il se dit, y compris dans le régime non réaliste, dans la voix de la mère, quelque chose à propos de la manière dont doit manger le fils ou doivent manger les enfants. C'est-à-dire... lentement, ouais. Mastiquer, prendre le temps. Et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une sorte de préambule de ce qu'on allait voir par rapport à la langue, par rapport au rythme et par rapport au choix de Williams et Janto.
Oui, c'est ça. Au départ, cette injonction de la mère à ce que l'enfant prenne le temps de manger, c'est aussi pour maintenir des codes de société bourgeoise, de civilisation, avec le repas, avec tout le protocole du repas et du reste, pour maintenir quelque chose de l'ordre de la bourgeoisie qu'elle a dû connaître enfant et que par la vie qu'elle a menée, sans argent, elle est redescendue progressivement les échelons de la société, mais elle continue malgré tout avec des rapiéçages à chaque habit, elle continue à maintenir ses règles de savoir-vivre, donc pour elle c'est très très important, on le verra à plusieurs reprises, et puis effectivement vous avez raison, on invite le spectateur à se calmer, à être dans une espèce de dimension plus lente, comme un espèce de lent rituel qui se met en marche, et c'est assez beau de voir que parfois les spectateurs arrivent assez nerveux, bien sûr, toujours en train de chercher quelque chose dans leur sac, comme je l'ai fait tout à l'heure, et de parler, etc. Puis, avant que ça commence, alors que la lumière n'a même pas baissé, il y a déjà un petit effet magique où tout à coup les voix se mettent à chuchoter alors qu'il n'y a eu aucune lumière qui a baissé. Et ça, c'est très beau de voir ça. Et ensuite, ils sont dans une disposition où ils peuvent oublier un petit peu ce qu'ils ont à faire en sortant, avant, après, et rentrer dans ce à quoi on les invite, à cette cérémonie du souvenir, de la mémoire, à travers ces voiles, devant, derrière. C'est très belle musique aussi.
Et par conséquent, le texte de Williams agit, il me semble, toujours au moins à deux ou trois étages en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a les souvenirs de Tom, la manière dont ça se passait entre la mère et ses enfants, ces scènes de dîner, l'arrivée d'un ami, la question de la possibilité de la sœur d'être au monde. Et puis, il y a ce qui semble nous dire, je trouve, sur le langage, sur comment on se parle, comment c'est possible de se parler. Est-ce que vous avez l'impression, bon, alors peut-être pas dans cet enregistrement, mais chaque soir, de dire ça en même temps aux gens, c'est-à-dire à la fois d'appeler vos enfants pour manger, quoi, en tant que la mère de la pièce, et en même temps de dire aux spectateurs, on va faire ça avec les mots. On va les avaler lentement.
Bah écoutez, pour vous dire la vérité, j'y avais pas vraiment songé, mais maintenant que vous me le dites, effectivement, maintenant ça va m'aider aussi à penser à ça chaque soir, et ça donne en effet une dimension supplémentaire à la chose.
Comme quoi. Le début du rituel, quoi.
Oui, comme un début de rituel. Mais c'est vrai que dans cette pièce, on est déjà tout de suite dans un drôle d'état, un petit peu en apesanteur. En fait, à dire vrai, je les vois pas, les gens, hein, pour vous dire la vérité. Je sais pas s'ils me voient, mais moi, je les vois très, très peu. Donc, il y a une espèce d'apesanteur. On est déjà dans une troisième dimension, dans un monde amniotique, de rêve, etc. Et comme les gens sont effectivement très attentifs. Bon, ils toussaient beaucoup avant, maintenant ils toussent plus, donc on a peut-être amené quelque chose de supplémentaire pour que réellement ils oublient même de tousser. Et ça, c'est vraiment agréable de ne pas entendre tousser. Donc, oui, on est un petit peu dans un monde somnambule. Et en fait, je pense assez peu aux gens. Et parfois, je me souviens qu'ils sont là et j'essaye de traverser les rideaux en les regardant réellement. Mais on est un peu dans un drôle d'état, ouais, dans une autre dimension dès le départ. Quoi.
Si vous pensez peu aux gens, vous pensez à quoi ?
Alors, je ne sais pas à quoi on pense. Bon, bah, à ce que je dis déjà, à dire les mots les uns derrière les autres. Et puis, bon, ça va peut-être faire sourire, mais en fait, je suis un peu en... J'ai l'impression d'être un peu reliée à Tennessee Williams. Bon, je parle souvent de la relation que les acteurs ont avec les auteurs, mais en fait, elle est tellement proche, tellement réelle, tellement essentielle. C'est même la plus importante avant le metteur en scène, et parfois même avant ses camarades. Et il y a des auteurs qui nous tiennent pas tellement la main, à dire vrai, qui nous aident pas trop non plus, qui nous regardent de loin, qui se demandent comment on va se débrouiller avec ça, qui jubilent même de voir nos difficultés. Et Tennessee Williams, alors je l'ai déjà joué avec Joe Lavaudant dans La Nuit d'Iguane, mais je sais pas, c'est comme avec Tchekhov, en fait, ça fait à peu près le même effet. C'est des auteurs qui aiment, avec un grand A, profondément les acteurs, mais à un point incroyable. Et donc, ils nous donnent tout ça, à travers un texte absolument sublime, universel, qu'on ne se lassera jamais de jouer, parce que c'est les deux auteurs par excellence dont on ne se lassera jamais de
Tchekhov
jouer.
Tchekhov et
Tennessee Williams. Il y en a d'autres, mais je pense à ceux-là en premier. D'ailleurs, ils ont une relation. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font le rapprochement parfois entre ces deux auteurs. Et donc, ils nous donnent tellement d'amour et de soutien qu'on le rend. Et c'est à eux, en fait, qu'on s'adresse.
Tennessee Williams, non ?
Oui, moi, j'aime pas trop ça. Non, Tennessee Williams, c'est un grand auteur. Hein. C'est que moi, je suis pas passionné par les trucs psychanalytiques. Il est quand même un peu tordu, quoi. Hein, faut dire. C'est un peu la psychanalyse, mais il y en a pas d'autres aux États-Unis, franchement. Un autre auteur américain, là, on peut chercher. Disons, en tous les cas, que Tennessee Williams a donné l'occasion à des grands cinéastes de faire. C'est un scénariste formidable. Maintenant, son théâtre, en tant que théâtre, je sais pas, oui, peut-être. Non, mais c'est quand même un auteur. Hein. Oui. Disons que c'est les sujets. Il y a des scènes que je trouve absolument sublimes. Hein, c'est tous les trucs psychanalytiques qui me font un peu chier. Non, mais il y a des scènes sublimes, c'est du théâtre. Enfin, la psychanalyse n'est pas intéressante sur un plateau.
Non, j'entends bien, mais il y a les problèmes de sexualité qu'on ne doit pas porter sur un plateau, par exemple.
Ah bah non, je dis pas ça. Moi, ça m'intéresse pas. Ça, c'est une chose. Mais non, ça me gêne pas du tout. Vous savez, il y a des films que j'ai adorés où ça parle de sexualité. Hein.
Étrange archive de Bernard-Marie Coltès au micro de Lucien Atoun en 1990 sur France Culture. Oui, non, peut-être, Williams, oui, en tant que scénariste, oui, bon, théâtre quand même. Bon, manifestement, il y a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas dans le théâtre de Tennessee Williams, Bernard-Marie Coltès. Et puis, il y a cette histoire de psychanalyse sur un plateau. Est-ce que ça vous parle, Dominique Raymond ?
Alors oui, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse sur un plateau ? Effectivement, c'est peut-être un des auteurs qui l'a peut-être mis en scène. Dans toutes ses pièces, il y a cette part-là, mais elle est tellement... il n'y a tellement pas que ça. Enfin, c'est un des éléments, bien sûr, mais...
Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs quand on dit que c'est un des éléments, la psychanalyse sur un plateau ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il regarde de près les relations interfamiliales ? La manière dont les êtres vivent aussi avec ce qu'ils ont vécu.
Voilà, et à un moment donné, il y a toujours un aveu d'un des personnages qui... Bon, bah alors là, pour la mère, bon, elle est un peu schizophrène même. Elle raconte, enfin elle repart dans le passé, mais elle revit absolument la rencontre avec ses galants, cette obsession qu'elle avait pour les fleurs. Bon, c'est une psychanalyse effectivement sauvage. Presque, c'est même plus de l'ordre du cri primal, on dirait, du docteur Janov. Les choses sont revécues, en fait. Alors, la psychanalyse, on la revit, mais en fait, on parle parfois assez calmement sur un divan. Et là, c'est quand même, quand ça ressort, ça ressort comme alien, hein, c'est toujours assez violent. Donc, oui, c'est une forme de psychanalyse aussi. Mais moi, c'est pas ça que j'aime chez Tennessee Williams. Enfin, c'est un élément qui peut paraître démodé pour certaines personnes, mais je pense qu'à l'époque, on n'avait encore rien fait là-dessus, dans le domaine, donc c'était bien qu'il en parle. Mais moi, je trouve qu'il a une puissance poétique folle, surtout. Et ses personnalités, ses caractères, ses identités sont tellement justes, tellement vraies. Alors, ce qui est beau aussi, et qu'il y a que le théâtre qui peut se le permettre, c'est que ça dérape du côté de la monstruosité, ça dérape du côté de la folie, ça dérape... et c'est ce que le théâtre permet, et que jamais au cinéma on verra à ce point-là, jamais. Et donc, lui-même disait... bon, il était très content des films qu'on avait faits sur ses pièces, mais lui, ce qu'il aimait, c'était le théâtre. Et... d'autant plus le théâtre, mais pas réaliste, et il le dit, et c'est encore dit dans la pièce, et il le dit chaque fois qu'on veut l'entendre, il ne voulait pas de... il ne voulait pas, il ne se permettait pas de dire ça, mais il voulait une dimension non réaliste. C'était très important pour lui. Et s'il n'y a pas le théâtre qui montre cette dimension-là, mais alors où dans ce monde d'hyper-réalisme et de... figuratif à outrance dans les représentations des choses, c'est quand même magnifique de pouvoir, dans une pièce, disons, figurative, parce qu'elle fait quand même partie du domaine figuratif, comme la peinture, qui est un mouvement qui revient aussi, figuratif. On revient dans le figuratif, dans le psychologique, dans un genre de pièce qu'on n'aurait pas monté il y a encore 10 ans. Et néanmoins, il continue à dire non réaliste. Et j'ai l'impression que, voilà, on tient une espèce de flambeau aussi, de défendre une certaine façon de jouer, qui n'est pas une façon réaliste de jouer. Et là, je pense évidemment à Antoine Vitesse, qui nous avait amené totalement avec une grande, grande liberté dans toutes ces zones de théâtre, de pièces réalistes, mais jouées d'une façon avant tout chorégraphique. Et on pourrait dire non réaliste, mais c'est pas ça d'ailleurs, c'est pas le non réalisme ou le réalisme, c'est une façon de déplacer le jeu vers quelque chose d'expressionniste. Voilà, ce serait plutôt ça, l'expressionnisme.
Et d'accepter peut-être, Dominique Raymond, que dans la réalité, il y a une part des choses que nous vivons, que nous disons, de nos déplacements, de nos regards, de nos paroles, qui sont, entre guillemets, irréalistes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que réalistes d'une certaine manière. Et pour cette femme qui décroche, qui se trouve renvoyée à sa propre jeunesse, à la propre manière dont elle a été elle aussi séduite ou courtisée, parce que là, ce qu'elle souhaite, c'est que sa fille le soit, eh bien, elle revêt une robe jaune, elle met des fleurs dans ses cheveux. C'est peut-être aussi la réalité, ça.
Oui, oui, c'est une...
C'est accepter que c'est très kaléidoscopique, la réalité.
Complètement. Alors, peut-être que ça ne pourrait pas arriver, mais c'est du condensé, mais c'est la réalité amplifiée en fait. Mais cette mère qui fait absolument tout pour que sa fille puisse s'en sortir, moi je sais pas, je trouve ça bouleversant. On dit que c'est un monstre, mais non, elle veut absolument que sa fille soit casée. Pourquoi? Parce que elle veut qu'elle puisse avoir de l'argent, vivre, et comme il n'y aura aucune chance sur les études, il ne reste plus que le galant, le soupirant, le mari.
Elle dit « Je sais le sort qu'on réserve aux jeunes filles qui ne sont pas casées ». Voilà. C'est terrible cette phrase.
Ouais. Enfin, reléguée dans une chambre.
Reléguée dans une chambre.
Pas plus grosse qu'un trou à rats, avalant toute leur vie le pain noir de l'humiliation. Alors peut-être que maintenant, c'est peut-être plus tellement des discours qu'on pourrait entendre, mais enfin, de l'époque de ma mère, en tout cas, je pense que pour moi, elle avait peut-être cette inquiétude. Et je me souviens qu'elle me parlait de cours de dactylo, je savais pas ce que c'était, je comprenais pas pourquoi elle me parlait toujours de cours de dactylo. Ben maintenant je...
Comme une sûreté?
Oui, comme une sûreté, oui, comme une sûreté. C'était le métier principal des femmes il y a quelques années.
Quand vous dites que ce qui vous touche chez Williams, c'est la force de caractère et les personnages qu'il écrit et qu'il campe, si vous deviez décrire celle que vous jouez, la femme que vous jouez, vous en parleriez avec quel mot?
La mère. Ben en fait, c'est la mère de Tennessee. Ça a été son premier modèle et une source d'inspiration sans fin. La mère, ça ressemble à un fantasme de mère tellement c'est incroyablement riche et contrastée.
Elle est presque stylisée, quoi.
Stylisée, c'est presque un fantasme tellement c'est exagéré. Et en même temps, donc c'est la réalité amplifiée. C'était en grande partie effectivement sa mère, à qui il a donné la moitié de ses droits jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle a été sa source d'inspiration première. C'est Blanche Dubois dans Tramway nommé Désir. Enfin, on la voit dans les rôles de Viviane Hague au cinéma tout le temps. Et donc c'était une mère qui devait être une sacrée personnalité. Alors évidemment monstrueuse, ça c'est sûr. Aimante, ça à n'en pas douter. Mais avec des moyens Alors on dit pervers, non, je crois pas. Je crois pas qu'il y a de la perversité chez elle. Simplement, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Et ses fins, c'est juste qu'on s'en sorte, en fait. Qu'on s'en sorte. Donc, bon, de toute façon, j'ai tendance à...
À la défendre.
À défendre. On a tendance à défendre les personnages qu'on joue, en général. Bien que les monstres méchants soient très agréables à jouer aussi. Notamment chez Strindberg. J'ai joué le Pélican et... J'aimais beaucoup, beaucoup jouer quelqu'un qui soit si haineux et si dans la haine. C'est extrêmement jubilatoire. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas un monstre.
Il y a une décision à prendre dans l'interprétation, à savoir, est-ce que vous voulez la défendre? Est-ce que vous êtes en empathie totale? Est-ce que vous êtes légèrement distante par la position de cette mère? Je me rappelle d'un entretien où vous disiez, il y a certains personnages où je n'ai pas réussi à prendre la décision. Et je suis restée dans un flottement. Pendant l'exploitation de la pièce, j'ai cherché. J'ai la sensation, avec ce personnage de la mère chez William, que vous avez décidé quelque chose, que vous êtes très au clair par rapport à cette personne.
Bah, c'est ma partie, on va dire que je laisse agir ma partie monstrueuse, comme si c'était un peu la dernière fois que j'allais jouer, en me disant, c'est pas grave si c'est pas compris ou pas... accepté ou pas reçu, parce que je sais qu'il y a peut-être des choses qui se perdent, ou les gens trouvent ça quand même étrange de jouer comme ça. Ils se reconnaissent pas toujours. Mais moi, j'aime cette mère infiniment, et le fait de pouvoir mettre au service, mettre sa propre folie, monstruosité, sensibilité surtout, parce qu'il y a une immense sensibilité à fleur de peau, enfin c'est inouï. Et donc, mettre tout ça au service de ce rôle que j'aime tant. Tant que je le joue, je l'adore et je pense que je l'aimerai toujours après. Mais j'ai aimé aussi beaucoup Arkadina. J'ai aimé infiniment Mademoiselle Jakes. Enfin bon, la plupart des rôles qu'on joue, on les aime et on a envie de les défendre. Même plus, on a envie de montrer quelque chose qui n'avait pas été fait jusque-là. Enfin, comme si vous voulez marquer d'une pierre un rôle. On a un peu cette prétention. Effectivement, il y a des rôles où je ne savais pas trop quoi en penser, donc je me contentais de faire un petit peu ce qu'on me demandait. Au fond, c'est pas grave, des fois ça passe quand même. Mais c'est très rare.
C'est plusieurs fois que vous laissez entendre l'idée que vous tenez un cap, quitte à n'être pas compris, ou que vous défendez un jeu, quitte à ce que ce soit difficile à recevoir. Vous avez l'impression, avec ce rôle-là, ou cette direction d'acteur de Janto, d'être à un endroit qui est risqué, qui est minoritaire, qui est...
Oui, parce que, en fait, si je me souviens un petit peu, à l'époque où on travaillait avec Vitesse, il y avait des acteurs, des acteurs un peu pas style, mais qui avaient une façon de dire le texte d'une façon totalement personnelle. Et moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé les acteurs qui avaient une façon extrêmement personnelle de parler. Je dis pas qu'aujourd'hui, il y a pas ça, il faut arrêter, mais disons qu'on se dirige parfois dans des zones d'hyper-naturalisme, un petit peu comme si on était au cinéma et tout ça. Et je trouve ça, je suis bluffée hein, chaque fois que je vois ça, quand c'est bien fait bien sûr. Et puis j'admire beaucoup les gens qui improvisent sur des thèmes, même sur scène, on leur dit trois mots et hop c'est parti. Bon, ça je ne sais pas faire, ça c'est sûr. Mais j'ai un peu la nostalgie effectivement de ce jeu non réaliste duquel Daniel est preneur, mais à 100%. Et c'est peut-être un des rares metteurs en scène qui non seulement aime ce décalage hein, avec la réalité, ce qui n'empêche pas l'hypra sincérité, mais il va encourager cette façon de jouer stylisée. Par exemple, il a employé des mots que moi qui me parlent, mais à 400%, c'est par exemple chaque fois que le fils s'approche de la mère, il rentre dans sa zone de vie et elle est comme un poisson chinois dont les branchies, dont les nageoires se durcissent. Et ça se relâche.
C'est parfait.
Voilà, ça me parle, mais à 450%. J'adore.
J'en ai marre du cinéma.
Du cinéma?
Ouais, du cinéma. Regardez, toutes ces créatures de rêve qui vivent des aventures, raflent tout, s'accaparent tout. Tu sais ce qui se passe? Les gens vont au cinéma au lieu de se bouger. L'Amérique entière laisse les personnages d'Hollywood vivre des aventures à sa place pendant qu'elle reste tranquillement assise dans une salle obscure à les regarder, ouais, jusqu'à la prochaine guerre. Et là, l'aventure devient accessible à tous, au commun des mortels, et pas seulement à Clark Gable. Alors, les habitués des salles obscures sortent des salles obscures pour vivre l'aventure en direct, chic chic. À notre tour maintenant de voler vers les îles des mers du Sud, de faire un safari, de nous enivrer d'exotisme à l'autre bout du monde, Mais moi, j'ai pas la patience. J'ai pas envie d'attendre jusque-là. J'en ai marre du cinéma.
C'est un deuxième extrait, Dominique Raymond, de cette pièce « La ménagerie de verre ». Les choses sont un peu plus avancées. Un ami du fils, Tom, vient d'être invité dans la maison à se dîner sous les yeux de la mère et potentiellement pour ravir la sœur, Laura. Et juste avant ce passage, l'ami lui dit « Tu sais, j'ai des conseils à te donner. Tu devrais suivre des cours d'expression orale parce que c'est ça l'avenir, en fait. Si les gens périclitent, s'ils n'ont pas de travail, c'est qu'ils ne savent pas s'exprimer en public et c'est ça qu'il faut faire. » Et puis, ce que lui répond Tom, c'est « Moi, j'en ai marre du cinéma. » Et j'ai trouvé, pour recontinuer la réflexion que je proposais en début d'entretien, à savoir qu'il y avait dans la pièce de Williams des choses qui se disaient sur ce que c'est que de parler, ce que c'est que de produire un spectacle social, que dans ce passage, il disait aussi des choses, surtout si l'on se penche vers le personnage de Laura, qui est à l'endroit presque opposé du cours d'expression orale performatif. À quel endroit, selon vous, Dominique Raymond ?
Elle se situe. Alors, c'est le grand secret de la pièce, Laura. Et il s'est inspiré de sa sœur, réellement, qui, elle, avait une pathologie assez importante et qui se voyait beaucoup plus que celle de notre Laura à nous, dont on n'a pas choisi un handicap particulier, c'est-à-dire qu'on le devine, mais on ne le voit jamais. Mais Laura, c'est le grand mystère et c'est le rubis de cette pièce, c'est-à-dire qu'elle brille comme une pierre chinoise qui a été patinée par le temps, et à l'intérieur, il y a une magnifique lumière, simplement. Elle n'a pas encore sorti de sa chrysalide et on essaye tous, y compris le frère et même le galant à la fin et la mère, on essaye tous de la faire enfin exister, venir au monde. Et elle va y venir pendant quelques minutes. Et je révèle pas la fin, mais elle y restera pas malheureusement. Mais
pendant toute cette pièce, il est question de l'incapacité d'être au monde, de Laura, de comment on fait pour se débrouiller dans l'existence aussi. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, pour France Culture, vous aviez déballé votre bibliothèque et vous aviez lu à l'époque un texte qui s'appelle « L'éloge de l'ombre ». Et j'ai vraiment l'impression, dans la manière dont vous décrivez le personnage de Laura, que c'est ça, qu'elle est à cet endroit-là. À l'endroit décrit par le texte « L'éloge de l'ombre ».
Ben oui, c'est des personnages qui touchent énormément les gens. D'ailleurs, en sortant, les spectateurs sont extrêmement touchés par ce rôle de Laura qui est joué par Solène Arbel. Ils sont très, très, très émus par cette figure-là qu'on voit assez peu au théâtre. Peut-être on la voit un petit peu dans « Yvonne, princesse de Bourgogne » de Gombrowicz, une jeune femme qui dit un mot dans toute la pièce. Et puis devient, alors elle, par contre, le souffre-douleur de tous les autres. Mais là, les gens veulent son bien, mais elle est prisonnière d'elle-même à cause de son handicap, à cause peut-être aussi, il faut quand même bien dire, que la mère l'a un petit peu étouffée. Elle a dû en faire un petit peu trop. Mais c'est pas pour ça. Elle a quelque chose dès le départ. Dans la réalité, la sœur de Tennessee Williams a été lobotomisée, je crois, par rapport à une question de l'ordre de la sexualité. Je ne me souviens plus très bien, mais il en était extrêmement proche et il l'a aimé. Je crois que c'est la personne qu'il a le plus aimé de sa vie, c'était sa sœur, Rose. Et il a tellement bien su la transcrire dans ce personnage de Laura qui écoute, qui regarde.
Qui parle peu, elle aussi.
Mais qui exprime tout par le regard et par son attitude physique un petit peu gauche parfois. Et donc, c'est des personnages bouleversants, hein, tout simplement. Et Solène est magnifique dans ce rôle. Et à la fin, quand enfin, peut-être que la lumière va se faire, elle s'ouvre et elle parle de ces petits animaux en verre. C'est extrêmement touchant. C'est très très touchant parce que c'est extrêmement simple. C'est aussi ça qui est beau avec Tennessee Williams, c'est qu'il n'a pas peur de dire des choses, mais d'une simplicité mais incroyable. Quand le galant dit, joué par Quentin Bouissou, quand il dit « Mais c'est quoi comme animal ? Une licorne ? Mais ça n'existe plus dans les temps modernes, les licornes, enfin, ce genre de choses. » C'est tellement beau, quoi. C'est tellement simple.
Tout à l'heure, vous faisiez mention d'un retour de la peinture à la figuration, que quelque chose depuis certaines années au théâtre se repermet la figuration. Si cette pièce-là, montée par Daniel Jeannetot, était une forme de peinture, vous êtes derrière un tulle, vous êtes éclairé d'une certaine manière qui fait que parfois on a presque l'impression que vous devenez picturaux, ce serait quel genre de peinture, dans quelle teinte ?
Alors, ce serait quoi comme peinture ? Bon, alors sur la couverture du livre de la ménagerie qui est ressorti donc dans la traduction d'Isabelle Famchon, il a mis un tableau de Hopper. Alors ça pourrait être Hopper, bien sûr, mais c'est presque un peu trop figuratif, Hopper. Bon, j'adore. Mais comme peinture, disons, qui se rapprocherait à Daniel, alors je sais pas, ça doit être peut-être des peintres que lui seul connaît. C'est un homme qui vient de la scénographie, de la peinture. Il a fait les arts décoratifs de Strasbourg. Enfin, il vient de là. Alors, il serait plus dans l'art contemporain, peut-être. Et je connais un tout petit peu moins les artistes de l'art contemporain. Peut-être des Japonais, mais là, j'ai pas de nom à vous donner. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Peut-être qu'elle va s'endormir. Dors, mon amour, fais dodo, mon trésor. On crie chez la voisine, chez nous on câline. Tous traînent dans la fange, tu vas dans la soie. Dans la robe d'un ange retaillée pour toi. Les voisins crient famine, tu as du gâteau. Si tu veux des pralines, t'as qu'à dire un mot. Dors mon amour, fais dodo mon trésor. L'un repose en Pologne et l'autre je ne sais où. Elle dort maintenant. Je suis contente qu'elle dorme.
Moi je suis heureux, si vous voulez. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile chaque fois qu'un élève ou que le groupe des élèves m'a appris à moi quelque chose. Je ne dis pas du tout ça par démagogie, croyez-le. Ils m'apprennent beaucoup de choses sur le fonctionnement du comédien. Pour moi, le metteur en scène, comme le pédagogue, est un accoucheur. C'est vraiment... et la pédagogie, comme l'art de la mise en scène, enfin, comme l'art du rapport du metteur en scène avec les comédiens, est un art maïotique. Et la pédagogie du jeu de l'acteur... C'est ce que je la pense. De même que le travail du metteur en scène à l'égard des acteurs, c'est un travail qui consiste à essayer de mettre les acteurs dans des conditions telles qu'ils puissent libérer leurs fantasmes, qu'ils puissent se mettre dans une situation de disponibilité créatrice.
C'est une archive de 1969, la voix d'Antoine Vitesse, que vous recevez les yeux fermés et en, comme ça, avec des petits coups de menton. C'est compris, Antoine, c'est compris. Bon, d'abord, et peut-être avant que de parler de lui, on va laisser résonner sa voix et parler de la voix qu'on a entendue juste avant, celle de Germaine Montero, que vous écoutiez aussi avec beaucoup d'attention. Dominique Raymond, elle chantait Mère Courage de Brecht. Pourquoi est-ce que vous l'écoutiez, voire même avec un peu d'émotion?
Ben, à dire vrai, elle correspond à la première fois où je suis montée sur scène à l'âge de 10 ans, car mon oncle Thierry Vernet, qui est le copain de route de Nicolas Bouvier avec qui il a fait l'usage du monde, devait faire les décors de la maison de Bernarda à la Comédie de Genève. Je prenais des cours de diction, ça s'appelait diction. Et il avait dit qu'il avait une nièce qui prenait des cours de diction. Donc, s'il cherchait normalement une jeune fille pour la maison de Bernarda, la fille du village, qui doit dire « Pépé le Romano était avec les hommes du cortège », je m'en souviendrai toute ma vie. Et Germaine Montero a donc dit oui. Et je les ai suivis en tournée. Je pense que là, disons que les dés étaient jetés, on va dire, parce que j'avais plus tellement envie de retourner à l'école ensuite. Et cette Germaine Montero était extrêmement impressionnante. Elle faisait la mise en scène, elle jouait Bernarda Alba, elle était d'une beauté à tomber par terre. Et je lui avais fait signer le programme à la fin, et elle m'avait dit « à Dominique, que j'aime beaucoup ». Donc elle correspond vraiment au tout début, début, début. Et je me disais, ah, c'est comme ça, une comédienne, une actrice. Elle m'impressionnait vraiment énormément. Elle était sublime dans Bernarda.
Et dans le « c'est comme ça », quand on a 10 ans, il y a quoi? Qu'est-ce que vous vous disiez, c'est comme ça, une actrice, c'est comment?
Ben, c'est tout, c'est pas tout ce que je rêvais, parce que je savais pas avant.
Vous saviez pas que vous rêviez de ça.
Mais tout à coup, en la voyant, j'ai dû me dire, c'est comme ça que je veux être. C'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux être. C'était Germaine Montero. Et je savais pas qu'elle était connue, en plus. Elle était connue à l'époque, mais je ne savais pas. Je connaissais vraiment rien. Et après, j'ai appris quand même qu'elle avait chanté énormément, tout Brecht, Kurt Weill, tout ça. Et que c'était une très grande actrice, chanteuse, magnifique voix. Et on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas grave, on en reparlera peut-être une fois.
Mais avec le temps, déjà on en parle ce soir, et avec le temps, est-ce que le « c'est comme ça que je veux être », il s'est confirmé? Est-ce que ce que vous a laissé voir à 10 ans Germaine Montero dans cette tournée de théâtre fait que, en effet, c'est ça que vous avez trouvé sur votre chemin ensuite?
Ce métier?
Oui, ce métier, ou de la manière, enfin, la manière dont ça vous a fait rêver à ce moment-là.
Alors, ça a dû me faire rêver à ce moment-là, ça c'est vrai. J'ai aimé la tournée, j'aimais ce rôle tout petit, et j'étais tellement cajolée, tellement j'étais l'enfant dans cette troupe de femmes, c'était vraiment très très agréable. Après, j'ai fait des pensionnats, j'ai joué Claudel dans les pensionnats de filles, où je jouais les rôles d'hommes avec ma voix. Le théâtre, en fait, on ne sait pas tellement bien, finalement, au fond, ce qu'on veut faire dans sa vie. Cette étincelle que j'avais eue, elle est peut-être partie. Après, il y a eu d'autres choses. Il y a eu l'amour de la peinture, du dessin, les arts déco, jeune fille au pair en Italie. Et puis, cette possibilité d'avoir une bourse pour aller à Paris, que j'ai passée. On était 4, donc ça aurait été dommage de ne pas la passer. Donc, je l'ai passée, mais presque par hasard. Et j'avais presque oublié cette étincelle de l'époque. Quand j'ai passé cette bourse sans y croire et sans rien vouloir du tout de faire de particulier à 17 ans. Et puis je l'ai eu, donc je suis venue à Paris. Puis les choses se sont un peu enchaînées comme ça, dans un cours d'un homme qui s'appelait Pierre Wald, qui avait beaucoup travaillé avec Charles Dullin. Ça aussi, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et puis très rapidement, au conservatoire, découvrant d'abord Pierre Debauche, puis ensuite Vitesse, et n'en revenant pas de la réponse à toutes ces questions qu'on se pose, quoi. Tout à coup, on a la réponse.
Ou qu'on ne sait même pas qu'on s'est posé.
Si
on en croit la manière dont vous avez rencontré Vitesse. Alors, dans cette archive, il dit il faut mettre les gens dans une disposition créatrice. Et vous disiez oui, Antoine. Oui, avec la tête, quelques 50 ans plus tard.
Non,
c'était une archive de 69.
Ah, bah, lui, je croyais que...
Non, pas vous. Non. Non, cette archive.
C'est d'archive.
Quand il dit des dispositions créatrices, d'une part, comment le faisait-il à l'époque? Et aujourd'hui, comment trouvez-vous dans vos interlocuteurs, de metteurs en scène, de comédiens, la manière d'être mis dans des dispositions créatrices?
Il n'y a pas l'équivalent, hein, ça c'est sûr. Il n'y a absolument pas l'équivalent. Il y avait un metteur en scène qui avait la notion de ludique, qui a beaucoup aussi joué sur ce thème du ludique. C'était Luc Bondy qui arrivait à créer le côté « ça n'a pas d'importance ».
Amusez-vous.
Amusons-nous, amusez-vous, ça n'a pas d'importance. Le théâtre ne commence pas, ne finit pas. On en fait comme dans la vie, c'est la continuité. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de... Bon, Luc avait vraiment énormément ça en lui. Maintenant, pour l'aspect chorégraphique et du formel, enfin de la... Oui, de la forme. Alors, je retrouve effectivement chez Daniel quelque chose de similaire, parce qu'Antoine, avant de travailler sur le jeu, il travaillait sur le A, B, C, la mise en scène. C'était d'une précision, mais diabolique. Mais il faisait semblant de l'inventer avec nous, mais tout était inscrit. C'était un grand scénographe aussi dans sa tête. Et cette forme qui pouvait même suffire en soi. l'acteur, disons, maladroit, pas très bon, ou je ne sais quoi, pouvait très bien, exister grâce à cette forme incroyable d'intelligence, de justesse, de beauté scénographique. Après, s'il mettait ce qu'il fallait, c'est-à-dire l'essentiel, alors là, ça devenait du grand, grand art. Mais même sans ça, ça l'était. C'est ça qui était extraordinaire.
C'est-à-dire que la forme façonnait jusqu'au comédien dont il parle parfois dans certaines archives, je crois celle-ci, mais dont on a coupé un petit bout d'objet. C'est dans cette archive qu'il parle du comédien comme d'un objet, part de son dispositif. C'est qu'on sent vraiment qu'il a une manière de voir l'espace du jeu, et que le comédien est un objet dans cet espace de jeu, qu'il faut se faire mouvoir, mais que presque le jeu J-E du comédien n'est pas... si essentiel. Ça ne veut pas dire que quand il advient, ce n'est pas très intéressant.
Oui, ça existe d'emblée, d'avance. Par exemple, quand on a fait l'échange, il disait « Marthe est assise, elle coud. » Ça suffit pour le rôle, on n'a pas besoin de plus. « Marthe est assise, elle coud. » Louis-Laine court, danse autour de l'arbre, court autour de l'arbre comme un indien. Et Litchi et le Bernon dansent, elle danse. Et Thomas Pollock-Nageoire est debout, planté avec ses billets dans la main. C'est comme des petites figurines dans une maquette, et déjà on peut faire ça. À partir de là, tout est possible. Mais il avait déjà construit la chose, et il y avait un énorme arbre, cette pauvre petite Marthe sur sa petite chaise en fer qui cousait. Et là, il avait planté le décor. Et ensuite, tout se développe. Et chez Claudel, ça devenait un truc immense, quoi.
Vous avez encore en tête, là moi je vous voyais écouter sa voix à Vitesse, elle vous revient parfois dans la manière de trouver quelque chose sur un plateau, est-ce qu'il est présent à ce point-là ?
Il est présent, absolument tout le temps, on lui parle, il nous voit, il est là, il nous encourage beaucoup, quand il y a des moments un petit peu difficiles. Je crois que tous les acteurs qui ont travaillé avec lui ne l'ont jamais quitté et sont une espèce de cour, enfin, faut pas non plus avoir l'air fou, mais une conversation muette de chaque jour. Et je crois qu'il n'y a pas un acteur qui n'a pas travaillé avec Vitesse qui, dès qu'on appuie sur le bouton, ça y est, c'est parti. Il a eu tellement, tellement d'importance d'avoir été aimé par cet homme-là, parce que, c'est un peu tabou de dire qu'on est aimé, mais néanmoins, c'était ça. Il aimait réellement les gens. Et c'était un metteur en scène qui était capable de venir chez vous, boire le thé, parce qu'il avait appris que vous faisiez de la peinture, du dessin. Et il disait, écoute, ça m'intéresse. Montre-moi. Et donc, il venait, il voulait voir les choses. Il s'intéressait réellement aux gens et pas uniquement à ce qu'ils produisent. Comme jeu de personnage. Non, il s'intéressait à l'âme de l'acteur. C'est quand même une grande différence.
Et ce qui avait un impact probablement sur ce qui était ensuite produit sur scène, c'est qu'on imagine que Vitesse venant, puisque en l'occurrence vous faites de la peinture et vous dessinez, voir une autre partie de votre art ou un autre endroit de vous-même, d'un seul coup, lorsqu'il vous regardait sur un plateau, peut-être qu'il vous regardait autrement et donc vous indiquait des choses autrement, Dominique Raymond.
Oui, enfin c'était une conversation... Je me souviens plus exactement, précisément, à part peut-être qu'on embellit, on enjolive le passé, mais je me souviens quand même, ces répétitions étaient quand même des moments d'immense liberté, parce que dans ces carcans un petit peu précis de position dans l'espace, de mouvement, les indications qu'il donnait étaient souvent physiques, en fait. Physique. Pour Claudel, c'était musical. En gros, c'était technique tout le temps. Et il n'y avait pas de danger à se faire du mal à l'âme. C'est-à-dire que l'acteur, parfois, on lui demande de produire du jeu. Il faut toujours produire du jeu. Mais il n'en peut plus, parfois, de produire du jeu. Il a juste envie qu'on l'aide un petit peu. Et en attendant qu'il trouve du jeu, il aimerait bien aussi qu'on l'aide à trouver des solutions visuelles. Quand les solutions visuelles sont trouvées, alors là, le jeu peut se déployer sans aucune fatigue. Mais quand il n'y a pas les solutions visuelles, c'est épuisant mentalement. C'est pour ça que parfois l'acteur est un petit peu borderline. C'est qu'il est souvent obligé de produire du jeu. Et le metteur en scène va peut-être faire son marché là-dedans. Alors, c'est pas toujours
alors que
très
lui proposait l'inverse, le cadre, la solution visuelle, voilà. Et ensuite...
Voilà, et s'il reste bien, elle reste bien toujours, par notre conscience, disons, des rôles, par le désir d'être bon, par l'émotion, l'émotion aussi que crée le contact, le choc traumatique avec un public la première fois. Donc tout ça fait que le jeu arrive comme ça, grand, immense, plein, mais il est protégé. Il est protégé par des balises, par des maisons, par des nids, par des petites choses qui font qu'on ne se perd pas. Et c'est pour ça que c'est un grand, 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 grand bonhomme.
Quel fruit me reviendra d'un aveu téméraire ?
Tu pantoules, là. Tu pantoules le temps. Quel fruit ? Là, tu peux vivre.
Ah, puisqu'il faut partir, partons sans lui déplaire. Retirons-nous, sortons.
Sortons.
Et sans nous découvrir, allons loin de ses yeux, l'oublier ou mourir.
Et plus un malpète, plus et sauvage.
L'essentiel, c'était quand il disait pour que la parole soit si froide, il faut que le cœur soit terriblement sanglant. Il disait que les personnages souffrent tellement que s'il n'y avait pas l'Alexandrin, ils ne pourraient pas parler. Donc c'est la forme qui leur permet d'exprimer, et de s'exprimer et de parler. Après, il y avait ce fameux hélas, comment dire hélas. Il y en a 18 dans Bérénice et il disait qu'il faudra au moins 3 mois de stage pour arriver à dire hélas. Bon, on n'a pas eu le temps de faire ça, mais c'était magnifique parce qu'il a dit une chose que moi, après, on répétait aux acteurs, qu'il ne faut jamais oublier quand on dit hélas. Il a dit que hélas, c'est un souffle sur une blessure. Je pense que ça fait une phrase qui a parlé énormément aux acteurs et que chaque fois, on répétait pour ne pas l'oublier.
C'est un extrait d'un atelier de création radiophonique de Marc Blesinger et de Gaël Médon, consacré au travail de Klaus-Michael Gruber et à ses répétitions pour Bérénice. Il se trouve, Dominique Raymond, on a beaucoup parlé à l'instant du travail avec Antoine Vitez, mais que vous avez publié un livre des journaux de répétition, notamment sur le travail mené avec Klaus-Michael Gruber. Dans l'extrait de l'atelier de création radiophonique, on l'entend chuchoter. Là, tu peux être vivant. Va doucement, là, tu peux être vivant. Vous gardez quoi comme souvenir du travail avec cette personne-là?
C'est incroyable d'avoir eu cette immense, immense, immense chance, privilège d'avoir croisé la route de cet homme. Chaque jour, je me dis, la chance que j'ai eue, tant pis si on ne fait plus rien après, mais on a rencontré Klaus. Et rencontrer Klaus, c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à un acteur. C'était un homme absolument incroyable. Alors lui aussi aimait les gens. Et les notes qu'il donnait à la fin d'un filage, ce sera « aime, aime-le ». Donc il parlait énormément d'amour et il savait réellement, il aimait les gens chacun pour lui-même, différemment. Et chacun se sentait le roi avec lui. Il était absolument prodigieux. Ses répétitions étaient comme un espèce de moment de grâce incroyable. Effectivement, il chuchotait beaucoup, en nous demandant de parler beaucoup plus doucement. Il disait toujours « roue, roue, calme, doucement ». Dès que quelqu'un disait une réplique, « tout ça. Alors c'est comme c'était pour la mort de Danton et qu'il y avait les tribuns et qu'à un moment donné, ils sont quand même un peu obligés de hausser la voix. Il y avait un acteur à la première lecture qui s'appelait François Clavier qui s'est dit « ben non, moi, puisqu'ils hurlent, je vais le faire fort, quoi ». Alors, négligeant les consignes de Klaus, il s'est mis à parler très très fort sur sa réplique, même à crier. Et Klaus est resté absolument impassible et après lui a dit « Oui, d'accord, mais alors beaucoup, beaucoup plus fort ». Et donc c'est des répliques comme ça qu'on n'oublie jamais. Tout ce qu'il a dit, c'est gravé à l'intérieur de nous pour toujours. Hein. Les larmes, oui, mais à l'intérieur. Parfois de faire de l'aquarelle, d'autres fois c'est gravé dans du marbre. La différence entre ces moments-là... Il y en a tellement, il y en a tellement. Enfin, il y a des livres hein, qui sortent où il y a toutes ces phrases et elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres.
Et il y a le vôtre, alors il se trouve qu'on a eu beaucoup de mal à le trouver.
Ah ben ça, c'est le comble. Je vais téléphoner.
Il faut que vous téléphoniez. Mais dans ces journaux de répétition, alors vous notez quoi? Vous gardez quoi en mémoire? Comment ça se passe d'être à la fois en train de travailler et en même temps d'avoir un petit bout de la tête qui fonctionne et qui va garder en mémoire certains des mots de Gruber, de Vitesse?
Alors j'ai pu le faire parce que j'avais un petit rôle. Je jouais Julie, la femme de Danton, qui doit avoir 3 scènes. Alors, je ne savais pas qu'il mettait en scène les scènes avec les femmes et les scènes d'amour beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus importante que tout ce qui était historique. Tout ce qui était historique, il enlevait, il a coupé la moitié de la pièce. Ce qui l'intéressait, c'était les histoires d'amour. Et donc, mais néanmoins, j'avais quand même pas le rôle principal, donc ça me laissait beaucoup de temps libre, en fait. Et je rentrais chez moi et j'écrivais ce que j'avais vu parce que je me disais que ça n'arriverait pas tous les jours de vivre une expérience pareille. Et j'avais la sensation anticipée qu'il fallait quand même un petit peu témoigner. Il y a quand même très très peu d'acteurs qui témoignent par écrit de leurs expériences. Et moi, j'ai lu une fois un livre d'un acteur japonais de chez Brook qui s'appelle Yutaka Wada, je crois. Yoshi Oida, pardon, et qui s'appelait L'acteur flottant, et j'ai un plaisir fou à lire des livres d'acteurs, comme des livres de peintres, et qui n'ont pas toujours la parole.
J'allais dire, vous dites à l'écrit, mais à l'oral, rares sont les comédiennes et les comédiens, les actrices, les acteurs, qui témoignent réellement de leur travail. C'est qu'on les entend faire la promotion de leur pièce de théâtre, de leur film. Ils racontent l'histoire, ils sont amenés à parler éventuellement d'un tournage, d'une expérience. Mais dire ce qui est à l'œuvre, dont consacrer sa vie, apporter des textes sur scène ou à l'écran, c'est très rare.
Oui, mais c'est un irracontable. C'est irracontable, au fond, parce que c'est d'un tel mystère, le travail de l'acteur. Moi, j'aime bien en parler, j'avoue, surtout de plus en plus maintenant que j'ai compris 2-3 trucs. J'aime beaucoup en parler. Mais il y a des acteurs, par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Michel Marquet, qui dit non, le travail de l'acteur, c'est comme un Indien, il efface ses marques sur le sable derrière lui. Et c'est beau aussi, cette idée qu'il n'y a pas de trace du tout, que c'est sur le moment, dans la mémoire, mais pas autrement. Et je lui avais fait lire mon livre sur les répétitions avec Gruber, et elle m'avait dit, bon, le mystère reste entier, ça va, t'es sauvé. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu d'acteurs qui parlent de leur travail réellement.
Peut-être qu'on ne leur demande pas.
Pas assez.
À vous écouter, alors qu'il s'agisse de parler de votre travail du moment avec Gianto ou avec Vitesse ou avec Gruber, je me dis quelle drôle d'existence de passer sa vie à faire ça. Lorsque vous réfléchissez aux années passées à porter des textes principalement sur scène ou aussi devant la caméra, vous vous dites quoi?
Je me dis je l'ai fait. j'ai fait ça. De temps en temps, je repense un peu effectivement à des rôles que j'ai aimé faire et je me risque à même les relire des bouts comme ça pour moi. Et il y a toujours une grosse émotion qui revient parce que tout revient quand même assez facilement. C'est vrai que c'est une drôle de vie. Je trouve ça incroyable de passer comme ça d'un rôle à l'autre et de travailler aussi pour parfois les rêves des autres. Parfois on rechigne à rentrer dans le rêve d'un autre. Des fois les metteurs en scène ne se rendent pas toujours compte qu'on n'y va pas forcément, c'est pas notre rêve exactement, on l'aurait peut-être fait différemment, je sais pas. Donc c'est quand même effectivement une drôle de vie, mais j'aime bien repenser au rôle que j'ai aimé jouer et je peux en parler indéfiniment.
Ce n'est pas les voyages vrais, ce sont les exercices. Je n'aime pas ces mots, exercices. Ce sont les répétitions pendant lesquelles nous ramassons tous les moments qui sont nécessaires pour cette réalité voyage. Tout à fait objectivement, sans aucune mystique, vous savez, parce que l'acteur, c'est l'acteur, l'art, ce n'est pas la vérité. Alors, on ramasse tous les moments, tous les éléments qui dessinent et qui dessinent cette forme, voyage. Après, c'est un collage, c'est presque le collage et qui est fait sans aucune Vous savez, parce que j'apprécie dans beaucoup de théâtres qu'il y a beaucoup de mysticisme. Beaucoup de mysticisme. On fait d'un acteur quelqu'un qui est presque un prêtre ou quelqu'un qui est au-dessus de l'homme normal. Pour moi, l'artiste, c'est l'homme normal, tout à fait normal, qui a cette capacité de ramasser beaucoup de choses très éloignées. Et c'est tout, c'est le travail absolument objectif.
Un homme normal qui ramasse des choses très éloignées. On termine avec cette archive de 1972 avec Tadeusz Kantor. Dominique Raymond, est-ce que vous êtes une femme normale qui ramasse des choses très éloignées?
Alors, des choses, qu'est-ce que c'est que les
J'ai
choses?
J'ai vraiment l'impression qu'il décrit ce métier-là comme presque les glaneurs, les glaneuses d'Agnès Varda, quoi. Mmh. On ramasse.
Et on met dans son sac.
Ouais.
On met dans son sac, comme disait, je sais plus, Michel Bouquet. On met dans son sac des choses, comme ça, on accumule des choses. Ouais, on est normaux, je sais pas. Oui, quand on travaille pas, parfois, on a une vie normale, c'est vrai. On se sent, on peut être normal. Maintenant, ramasser des choses éparses, c'est tellement étrange comment les... Bon, écoutez, on est des musiciens, on fait de la musique, on a une partition, on joue les notes. Et c'est comme ça que je vois plutôt les choses, quoi. On joue les notes, on affine son instrument, on est dans la partition, et notre modestie, c'est l'interprétation, comme disait Strehler. C'est un peu ça, l'acteur.
Musicienne.
Oui.
Musicienne normale.
Musicienne normale, voilà.
Le titre de votre livre dont on a un peu parlé, Journaux de répétition, c'est paru aux éditions Klingsic.
It started as I was watching you. And as I was watching you,
I was finding my love.
I know it sounds strange to you, you never
watched
it before.
You.
Then I decided to arrive, to go down to meet you
from above.
And as I was falling down, you caught me
into your arms.
Such a surprise. I don't know how could that happen.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait franchement rire?
I remember you.
C'est horrible, je suis nul dans ce genre de truc. Qu'est-ce qui me fait rire? J'ai pas une idée. Qu'est-ce qui est drôle? Écoutez, j'étais atroce, je ne sais pas répondre.
C'est pas grave, ça dit quelque chose.
Non mais...
Bon, par les temps qui courent, que peindre?
Les portraits.
Par les temps qui courent, où s'asseoir tranquille?
Dans un square à Paris, rue des Archives, derrière les archives. Faut pas dévoiler, hein. Mais c'est un très très joli square.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Et quand vous voulez, sur franceculture.fr ou en podcast. Si vous êtes abonné au son ce soir, Jean-Michel Bernot à la réalisation, Olivier Guérin, Jeanne Aléos, Corinne Lama, Romain Debec de Lièvre, Oriane Delacroix m'aide à penser cette émission et je réponds @MarieRiche sur Twitter.
I have no other choice.
I was coming.
I'm coming to tell you
to tell you
I have to
goodbye. I was falling.
I can't say anything to you. I'm just falling.